Pendant toute cette semaine, à 13h30 et 20h30, Radio Escapade vous propose l'écoute des 5 épisodes de la série documentaire « La rivière en soi », réalisée par Florent Dupuis en collaboration avec Rémi Pozzo et Marianne Nicolet. « La rivière en soi » est un docu-fiction conçu à partir d'un collectage de témoignages d'habitants et d'habitantes, artistes ou passionnés des rivières, qui livrent leurs récits et points de vue autour de la présence et de la mémoire de l'eau liée aux rivières qui traversent le Grand Pic Saint-Loup. Ce podcast a été produit et diffusé dans le cadre de la Route de l'eau, un événement itinérant, culturel, écologique, scientifique et participatif autour de la présence et la mémoire de l'eau en Pic Saint-Loup. La Route de l'eau a été organisée par Lagrange Bouillon Cube du 26 septembre au 4 octobre de cette année. Épisode 5, le vivant qui vient.
Je dirais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a les outils pour réfléchir, pour s'adapter au mieux pour 2050. Pour autant, ça sera difficile et il faut s'attendre à des changements quand même importants. On ne vit pas pareil dans l'Espagne du Sud que dans l'Hérault actuellement. Donc en 2050, il est possible que si on a le climat de l'Andalousie, il y a des choses qui changent.
On a beau être dans le flou de comment ça va se passer, on sait que ça va se passer, donc je pense que ça ne doit pas empêcher d'agir et de se questionner, même si on ne sait pas précisément, enfin voilà, c'est pas une science exacte dans le sens où on est incapable de dire dans 20 ans la moyenne sur l'année sera telle température. Ça, on est, je crois, pas capable de le dire avec une fiabilité à 100%. Par contre, on est sûr que ça va augmenter, que ça va poser des soucis, donc ça doit pas être un empêchement à agir.
Épisode 5. Le vivant qui vient.
Déjà des actions évidentes à mettre en place, tout ce qui est économie d'eau, lutter contre les fuites, que ce soit les fuites sur les réseaux d'eau potable ou les fuites sur les réseaux agricoles. Il y a de la sobriété au niveau individuel, au-delà de lutter contre les fuites, c'est individuellement être plus sobre dans ses consommations d'eau potable. C'est au niveau de l'agriculture, de la sobriété également, c'est-à-dire adapter les cultures, adapter les doses d'irrigation au fait qu'il y a moins d'eau. Et puis, il y aura peut-être aussi des réponses technologiques. Je pense que ce sera un mix de réponses pour s'adapter, avec peut-être du... Alors, il y a le fameux débat du stockage hivernal, c'est-à-dire de stocker l'eau l'hiver quand elle est plutôt abondante pour l'utiliser l'été. C'est quelque chose qui se fait déjà dans les Cévennes, donc dans le haut bassin de l'Hérault, où on a une cinquantaine, même 70 bassins, je crois, petits bassins individuels de quelques mètres cubes, qui permettent, en captant l'eau l'hiver, d'irriguer les cultures d'oignons doux l'été. Donc c'est une solution qui existe. Est-ce qu'elle est extensible ou reproductible sur d'autres secteurs? À voir. Il y a aussi une question qui se pose sur le recours au lac du Salagou, qui a été... Donc une partie de la question a été réglée en 2018, où effectivement il est utilisé pour développer de l'irrigation. Est-ce qu'il lui reste un potentiel pour encore soutenir quelques usages? Comment il va se remplir avec le changement climatique? Donc tout ça est en cours d'étude. Voilà. Donc je pense que on sait ce à quoi s'attendre en 2050. Il y a quelques solutions qui paraissent évidentes, qui sont déjà en œuvre. Voilà. Il reste à finaliser tout ça. Dans un plan de gestion de la ressource en eau qui prenne en compte tout ça. C'est ce qu'on réalise en ce moment, c'est ce qu'on étudie en ce moment.
Il faut qu'il y ait une crise pour qu'on s'organise, quoi. C'est fou,
c'est ça.
Hein. Ouais. On a la tête dans la main.
Ouais, c'est ça, parce que là, 2023, c'était vraiment grave, en fait. Donc depuis, les cellules sécheresses, qui sont un peu les formats, on va dire, que le préfet met en place pour déjà faire un point de la situation et mettre en place, en fait, les décrets, en fait, après, qui vont s'appliquer pour fixer les contraintes territoire par territoire sur la gestion de la crise de l'eau. Donc ça déjà, ces cellules sécheresses, bah, elles sont beaucoup plus en lien et en proximité et de façon beaucoup plus fréquente et beaucoup plus en amont aussi des crises. C'est-à-dire que bah, là, même là, en fait, la cellule sécheresse se mobilise l'hiver pour vous dire, bon bah ok, on en est où, vous en êtes où, c'est quoi vos indicateurs, etc. Donc beaucoup plus en anticipation. Beaucoup plus en proximité avec tous les acteurs de l'eau. Donc ça déjà, on est beaucoup plus performant là-dessus. Donc du coup, on a une beaucoup plus grande visibilité de l'état de la ressource et beaucoup plus d'anticipation. On a développé ce qu'on appelle de l'ADN environnemental au niveau des sources. Donc on a la signature biologique des sources. Tout être vivant relargue d'une façon ou d'une autre son ADN. Une bactérie quand elle meurt ou quand elle circule dans l'eau. N'importe quel crustacé perd des cellules, etc. Et en fait, c'est au travers de filtres très fins, on récupère cet ADN qui circule dans l'eau, on l'analyse et donc on est capable d'avoir un spectre très large en fait de tout ce qu'on a de vivant en fait dans une source.
Donc ça, c'est ma spécialité, c'est ce que je fais le plus maintenant. Donc le principe, il est assez simple. Tous les animaux vivants, terrestres ou aquatiques, vont perdre des cellules de peau essentiellement dans leur environnement. Donc à chaque frottement, nous, on a plein de cellules de peau qui restent sur la table. C'est comme ça d'ailleurs que la police criminelle étudie les scènes de crime. On va perdre 500 millions de cellules par jour. Ce qui va représenter, à la fin de notre vie, 18 kilos de cellules de peau qui ont été laissées et parties avec la balayette et l'aspirateur. Chacune de ces cellules contient notre ADN. Les cellules se dégradent, l'ADN aussi. Mais on a un petit laps de temps pour essayer de le détecter, en milieu aquatique, dans le sol ou dans l'air. Moi, je travaille que sur la matrice eau, parce que c'est la plus intéressante en termes de dilution. Et donc, cette eau, n'importe quelle eau de rivière, elle va charrier plein d'ADN qu'on ne voit pas. Donc déjà, elle va charrier plein de bactéries vivantes. Donc ça va faire l'essentiel de l'ADN qu'on trouve dans de l'eau, ça va être ça. Mais elle va charrier aussi quelques petits brins d'un chevreuil qui est venu boire, des poissons qui vivent là, des escargots, des moules. Et là, aujourd'hui, on a des techniques très très puissantes qui consistent à filtrer cette eau et à séquencer le filtre. Et sur le papier, on a dans le filtre l'ADN de tout ce qui vit dans et autour de l'eau. Et donc, on peut tout décrire. On peut dire ici, alors sur les 3-4 km en amont de mon endroit de prélèvement, il y a toujours cette incertitude, mais on a du chevreuil, on a une espèce de chauve-souris, on a trois espèces d'oiseaux, on a telle bactérie, on a Jean-Louis qui est venu manger son pique-nique au saumon et qu'on a fait tomber un peu, ou de sardines, donc on récupère ça aussi, faut se méfier, on récupère des restes de consommation humaine. Mais en multipliant les prélèvements, quand on finit par avoir une image hyper fiable, hyper précise de la biodiversité d'un site. Par exemple, les moules d'eau douce, dès qu'on arrive sur les zones où il y a quand même beaucoup d'orpaillage, beaucoup de déforestation, elles disparaissent, ou alors elles ne sont pas sur tous les sites. Alors qu'en amont, par contre, sur tous les sites, à chaque fois, on a ces moules d'eau douce indicatrices de qualité d'eau. Donc oui, on peut travailler là-dessus, et on est sur des échelles en géographie, on est sur des échelles de quelques kilomètres, quoi. Nos prélèvements nous racontent ce qui se passe quelques kilomètres à l'amont. Donc pour un écologue, c'est parfait.
Non, mais du coup, vous ne pouvez pas comparer, par exemple, avec les années 60, la qualité de l'eau ou ce genre de choses. Ça, j'imagine, c'est compliqué.
Alors ça, on ne peut pas le faire parce qu'on n'avait pas la technologie dans les années 60. Donc on ne peut pas comparer aujourd'hui avec hier. Par contre, ce qu'on va pouvoir comparer, c'est aujourd'hui avec demain. Et ça, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment ce qu'on fait. Et on se dit aussi, un peu comme les archéologues qui fouillent pas des sites en se disant les générations futures auront d'autres techniques, on va pas tout leur dépouiller. Là, un peu de la même manière, on peut faire du biobanking, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on toute cette ADN qu'on a prélevé, on se le garde et on le réanalysera plus tard quand les méthodes seront encore plus développées. Donc l'eau garde en mémoire d'une certaine manière la faune et la flore qu'elle héberge. Mais avec cette méthode-là, c'est plus une photographie qu'on fait. On fait plutôt une photo de classe. On fait une photo de classe avec la résolution qu'est la nôtre aujourd'hui. Demain, on aura une résolution meilleure, mais on pourra reprendre la résolution d'avant si on veut vraiment comparer, si on veut être sur les mêmes méthodes. Et ces photos de classe, elles sont hyper intéressantes. Encore une fois, sur le Maroni, en 2017, il y a eu la première mission. On en a fait une deuxième exactement au même endroit en 2021. Donc là, on a déjà 4 ans de recul. On voit déjà des différences. Ténues, mais on les voit. dans les deux sens d'ailleurs, hein, des zones qui se dégradent, mais aussi des zones qui se sont restaurées. Des zones où, suite à l'arrêt de leur paillage, on est passé de 3 espèces d'amphibiens à 35 et de, je ne sais plus, 13 espèces de poissons à 128.
Donc, en 3 ans ?
Ouais, en 4 ans. En 4 ans. Si on arrête leur paillage et s'il y a de la nature préservée autour, ça se répare.
Le vivant se répare tout seul.
Ouais.
Quand on retire la trace de l'homme.
Quand on retire la cause de disparition, ça revient.
Donc pour nous, ce qui était important, c'est d'avoir cette espèce de point zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ça fonctionne très bien, qu'on n'a pas de problème. Et donc, on a ce point zéro avec nos signatures biologiques, nos signatures physico-chimiques. Et si ça change, bah voilà, on aura notre point zéro et on verra comment ça passera à l'avenir.
C'est marrant parce qu'il y a quand même une mémoire de l'eau à travers l'ADN des anciennes espèces de millions d'années, quoi.
C'est ça, c'est ça.
On sait vraiment peu de choses. En fait, rien, il reste tellement à explorer, parce que c'est vraiment un autre monde. Et pour notre enfant fleuve, hein, mais c'est une enfant qui a développé une sorte de mer intérieure à la place du cerveau. Mais elle me l'a dit, qu'elle captait des choses, qu'elle arrivait à entrer en dialogue avec des poissons, avec des insectes, avec des chauves-souris. Et enfin, mais c'est un truc de dingue, ça. Regarde-moi ça. Tu vois, là, sur cette image-là, on a une poche d'eau au milieu du crâne, avec le cerveau tout autour. Et là, si on zoome dans l'image, il y a un détail. Tu vois ça? L'image de l'activité cérébrale, là,
non.
En grand. Attends, ouais, je grossis encore, voilà, 450%, avec les nervures et tout. Bah ça, là, cette branche-là, ça m'a fait penser à un truc. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, je me disais, bon sang, où est-ce que j'ai vu ça? Ben regarde.
Ah, tu lis les magazines de Spéléo.
Ah bah j'en
fais. Franck Vasseur, là.
Oui, voilà, Franck Vasseur. Et c'est là que j'ai réalisé. La carte de la dernière explo dans l'Hérault, la vallée de la Buège. Mais regarde.
Oui.
Bah, compare. Elle est exactement identique à celle du scan cérébral.
De la petite... Alors,
j'arrive
pas à voir.
Alors, regarde. Là, peut-être la transparence. Moi, je suis pas... Je vais te montrer. Je suis allé sur Photoshop. Et j'ai superposé les images. Bah regarde le résultat. Hein ? Regarde ici.
C'est la même.
Tu vois, là, la nervure. Là, la nervure s'arrête. Et là, et à partir de là, là, on est dans la matière blanche. Et ici, on est dans une cavité, une circonvolution cérébrale. Et là, la rivière, là, c'est un vaisseau sanguin. Pourquoi ? Pourquoi toutes ces coïncidences ? Mais bon. On va pas aller aussi loin. Tu fais un podcast documentaire institutionnel. Je vais pas t'entraîner dans ces eaux troubles. J'ai pas envie de passer pour un conspirationniste, mais tu vois quand même le.
Mais ça, tu en as parlé. Ça, t'as eu des.
Non, parce que si je commence à aller là, les gens vont avoir peur.
Elle garde une mémoire, même si l'homme essaie de la contrainte dans tout le temps. Mais la mémoire, si les contraintes ne sont pas extraordinaires, comme le canal du Rhône, etc., elle arrive à retrouver son lit et son chemin. Moi, qui suis originaire de Saint-Bosile, je l'ai vu repasser à des endroits où on ne l'avait pas vu passer pendant des dizaines d'années. Et tu as plus de 1 km où elle coule actuellement. Alors, si on regarde la Grotte des Demoiselles, qui est un site très réputé, à bord de la Grotte des Demoiselles, il y a une cascade qui sort exceptionnellement. C'est un ancien lit de la rivière avant que le massif du Thorac ait suivi une poussée verticale comme ça. C'est un ancien lit de la rivière. Eh bien, moi, je l'ai vu deux fois depuis depuis en 50 ans. Je l'ai vu deux fois couler. Et c'est l'ancien lit de le fleuve Héron. Il a coulé une première fois. Le massif du Thorac s'est soulevé. Il a changé de lit. Et pourtant, de temps en temps, on le retrouve qui coule là. À droite de la Grotte des Demoiselles. C'est assez incroyable, quoi. À Vissec. Ça s'appelle Vissec quand même.
Ouais,
ça doit faire un petit moment.
Ouais,
c'est ça, c'est ça.
C'est vrai que cette rivière, elle a disparu sous terre et qu'on l'a jamais revue, hein, à Vissec.
Le rayon tordus humain disparaît régulièrement. Alors il réapparaît de plus en plus souvent, mais il disparaît assez régulièrement.
Il disparaît aussi. Et comme Condouillère, c'est pareil. C'est un torrent, ça vient, et puis ça s'en va aussi sec. Donc, mais quand même, les pierres sont. Quand on passe dans le lit de la rivière, au fond du raccourci, eh bien, on voit bien qu'il y a de l'eau qui a passé. Hein. À une période, sûrement que ça coulait beaucoup.
Le rapport aux rivières, Et la question écologique, en général, dépend d'une question de représentation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... C'est pour ça qu'en tant que cinéaste, je suis aussi... je trouve qu'il y a une connexion profonde. C'est qu'en fait, si l'on veut changer notre rapport aux rivières, il faut être capable d'arriver à changer nos représentations de la rivière. C'est-à-dire que si on voit la rivière, une bonne rivière, comme une rivière droite et sans bois, et si dans tous nos imaginaires, parce que c'est comme ça qu'on la voit, moi aussi, c'est à chaque fois, tout ce qu'on voit d'une rivière, c'est ça, on ne peut pas, en fait, imaginer d'autres politiques de la nature, parce que nos images, nos références sont celles-ci. Et c'est là où le cinéma a un réel pouvoir, c'est de justement de faire un travail de fiction, tu vois ce que je veux dire ? De mise en fiction, de mise en récit, de mise en image d'autres rivières pour qu'elles puissent advenir. Et c'est ce que dit Donna Haraway par rapport au nouveau récit. La philosophe Donna Haraway dit que, quelque part, si, que les images, les représentations ont un pouvoir politique parce que, justement, le fait même qu'elles existent, même en fiction, une fois, ça leur permet de dire que ça peut exister. Ça leur donne une capacité d'existence. Voilà.
Tu vas voir le micro qui va être aux couleurs de l'install.
Jeanne Bourat, plasticienne.
J'adore, je suis trop bien ici. Ça, c'est de la terre de... Alors, attends, que je ne dise pas de bêtises. Celle-là, elle vient de Saint-Beau. Et du coup, je suis allée prélever un peu de la terre à cet endroit-là qui est rouge. Donc, voilà ce que ça donne quand tu piles cette terre, que tu la tamises et que tu la mets avec de l'eau mélangée avec de la flotte. C'est assez collant. Donc là, il n'y a que de l'eau et de la terre. Et ça sert de peinture. Voilà. Donc je vais mettre ce morceau de bois à sécher. Alors, je suis en train de préparer une installation. Donc, je vais te montrer. Regarde. Tu vois, là, tout ça, c'est des super morceaux de bois qui viennent de Ganges. La maison, elle donne sur la rivière et on a des crues qui nous amènent du bois chaque année. Donc, tu vois, c'est... Bon, là, je les ai choisis. Hein. J'ai fait un petit peu une sélection. En privilégiant le rapport entre le poids et la surface. Donc l'idée, c'est d'avoir le maximum de surface pour le minimum de poids, parce que tous ces morceaux de bois, après, ils vont être suspendus dans une installation qui va voler comme c'est un petit peu au-dessus du sol. Tu vois ? Il y avait cette idée de remous. Et du coup, le sous-titre de remous, puisque c'est le titre de l'installation, le sous-titre, c'est « L'eau rêve de la terre ». Et pour avoir écouté des scientifiques, c'est vraiment la place de l'eau, c'est dans la terre. Et je trouvais ça intéressant de lier les deux, en tout cas dans le titre et dans l'idée, et dans le démarrage, tu vois, des matériaux.
Des imaginaires comme ça, ou des objets comme ça, je pense que ça contribue gentiment à faire évoluer les imaginaires. Et quand l'imaginaire évolue, je pense que ça peut être un levier très puissant de changement des politiques publiques. Donc... Ça rejoint un peu, je pense, le biorégionalisme aussi, de faire sensibiliser, faire connaître différemment les eaux, quoi. Au sens métaphorique ou au sens social, etc., la mémoire de l'eau, oui, ça, j'y crois beaucoup. Sur une rivière comme la Mausson ou le Lez, ça traverse des territoires extrêmement différents. Ça a vécu des époques extrêmement différentes et du coup, les interactions et les relations que les gens ont eues à la rivière, qui est un environnement, un endroit spécifique quand même sur un territoire, ça crée des interactions fortes entre les humains, des conflits, des conflits d'usage, des relations plus apaisées. Mais du coup, il y a une forme de mémoire qui se construit autour des rivières, une mémoire des territoires. Et moi, c'est un peu ça que j'essaye de faire avec le prochain projet, quoi, de collecte des récits de vie le long de la Mausson. C'est de faire réémerger cette mémoire du territoire autour de la rivière. Ça, j'y crois, ouais.
Ouais, je pense que oui. Je pense qu'elle doit avoir une mémoire. Enfin, elle est là depuis tellement d'années, enfin, même bien avant qu'il y ait des humains sur Terre. Donc, je me dis que forcément, avec tout ce qui s'est passé, doit y avoir ouais, quelque chose qui reste quoi, de tout ça. Enfin, mon rapport à l'eau, il est un peu compliqué. Depuis toute petite, ouais, j'ai toujours eu peur de l'eau, mais surtout des eaux profondes, enfin quand je voyais pas le fond, ouais. Ou les eaux vivantes quand il y avait beaucoup de courant, enfin voilà, les eaux, enfin voilà, une piscine ou une mare, ça pouvait aller encore parce que ça bougeait pas trop, mais j'aimais pas trop quand même. Voilà. Du coup, quand j'y allais, c'est un peu parce qu'on me forçait, mais Bon, c'est un peu intime là, peut-être ce que je vais te dire, mais ouais, moi j'ai toujours eu l'impression d'être, je sais pas si je pourrais dire d'être une fille de l'eau, mais j'ai toujours eu l'impression que j'avais trop d'eau dans le corps, comme si ouais, moi il y avait eu un bug dans le pourcentage. Ouais, c'est ça, comme si j'étais née avec trop d'eau dans le corps et que au final. Du coup, pour extérioriser ce trop plein d'eau, ben, je pleurais énormément. Et tous les jours, ou presque, quand je vis des émotions, je pleure. Et quand j'ai entendu parler de cette fille du fleuve, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à moi, en fait. Est-ce qu'elle aussi, en fait, c'est parce qu'elle a beaucoup d'eau en elle? Est-ce que c'est parce qu'elle vit beaucoup d'émotions aussi? Parce qu'apparemment, l'eau, c'est représenté par les émotions. Les émotions, c'est représenté par l'eau plutôt.
Ouais.
Symboliquement, j'avais lu ça quelque part. Je l'ai pas vue, du coup, je sais pas si elle est vraie ou pas cette histoire. Mais j'ai voulu, comme plusieurs personnes, je crois, mener un peu l'enquête. Parce que il y avait cette rumeur dans le village, mais personne ne savait vraiment qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. Du coup, je suis allée souvent au bord du fleuve pour voir.
À l'Hérault.
Ouais. Si je pouvais la voir. Et donc je l'ai pas vue, mais j'ai eu l'impression de sentir un peu une présence. Et au fur et à mesure que j'y allais, j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui s'installait en moi, une sorte de sérénité du fait d'être au contact de l'eau. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Je saurais pas trop l'expliquer.
Non, mais c'est hyper juste. Tu veux dire, touché par rapport à toi, ton corps et cette rivière, tu veux dire qu'il s'est passé un truc, tu veux dire?
Ouais, j'ai eu l'impression que le fait d'aller au bord de l'eau et de penser à cette fille du fleuve qui était là, peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas, j'avais l'impression de la sentir. Et ouais, j'avais l'impression que ça apaisait un truc en moi, comme si ça m'aidait à me dire, ok, moi aussi, j'ai de l'eau en moi, et là, il y a de l'eau qui est devant moi. Et de penser à elle, me dire qu'elle, elle existe, et peut-être qu'elle vit la même chose que moi, je me sentais moins seule. J'avais l'impression, dans mon imaginaire, en tout cas, je me disais, peut-être que c'est ma sœur, peut-être que moi aussi, j'ai vécu quelque chose qui fait que j'ai ce lien particulier à l'eau. Et au final, je sens que ça m'a apaisé cette peur que j'ai toujours eue. Bon, je veux pas dire qu'elle a complètement disparu, parce que ça serait un peu trop beau pour être vrai, mais
en tout cas, t'as un peu moins peur. T'arrives à t'asseoir au bord de la rivière maintenant.
Ouais, j'arrive à m'asseoir au bord de la rivière et je me sens sereine. Et j'arrive aussi mieux à accepter toutes ces émotions que je peux vivre. Du coup, j'ai l'impression que c'est l'eau à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi que j'ai pu mieux apprivoiser d'une certaine manière.
Vendredi 7 juillet. Il est 2h du matin. J'ai l'impression d'un rêve sans fin. Chaque nuit, il revient. Une obscurité totale. Une neige très fine qui tombe lentement autour de moi. Au ralenti. Comme si elle flottait. Et des lanternes s'allument petit à petit. Des filaments électriques. Des halos fluorescents et des ombres. Tellement d'ombres. Toutes les créatures des profondeurs qui m'entourent regardent vers le haut. Elles remontent tout à la surface. Tout autour, dans l'infinité, c'est une lente migration verticale. Des épaves échouées se mettent à flotter vers le haut sans poids. C'est un spectacle fantastique. Toute cette vie lumineuse qui résiste à l'obscurité des abysses. Et la nuit noire devient crépuscule. Après une longue ascension, les ombres les plus gigantesques dévient. Petit à petit, elles dessinent un arc majestueux. Avant de replonger dans l'obscurité, les lampions se dissipent ensuite. Les lampions de couleur dorée cessent de flotter. Je m'élève et elle stagne, comme bloquée à un étage de l'ascenseur. Je m'élève au-dessus d'un tapis lumineux qui est avalé par l'encre noire de minuit. Puis c'est autour du halo de méduses transparentes. Avec elles, toutes les couleurs bleues et rouges se dissipent. Elles sont remplacées par des tourbillons argentés, des nuées de petits poissons qui remontent en spirale rapide. Et à leur tour, elles aussi dévient et repartent vers les profondeurs. Un peu plus, et la lumière du matin s'insinue. Mais quelque chose retient mon ascension. Comme si l'air dans mes poumons avait laissé s'envoler la bouée. Je reste là, seule, longtemps. Et soudain, un siphonophore émerge de l'obscur lointain. Il se dessine devant moi en forme de cercle et j'entends une voix lointaine.
Bonjour.
Mais je suis incapable de parler. Mes poumons sont pleins d'eau et pourtant je suffoque pas.
Tu habites ici ?
Je réponds par la pensée. Non. Je retourne à la surface, ma deuxième maison. Et le siphonophore s'illumine.
Où sommes-nous ?
Je regarde au-dessus de moi, la surface lointaine scintille au soleil. Et je pense. Ah oui, c'est vrai, je suis en train de rêver.
C'est très intéressant la restauration écologique, notamment la restauration hydromorphologique, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte de redonner un espace de mouvement à la rivière. Donc souvent ce qui est choisi, c'est notamment sur le Vistre, dans la plaine de Nîmes, ils ont choisi de combler l'ancien lit qui était tout droit et très enfoncé et de créer un nouveau lit à côté, sur un espace, l'ancienne plaine, sur la plaine alluviale de la rivière, de lui recréer un lit à méandre et donc de lui permettre, là pour le coup, d'avoir des niveaux beaucoup plus faibles et donc d'essayer d'empêcher ces phénomènes d'incision et au contraire laisser la rivière méandrer, éroder ses berges, mettre des graviers, etc.
Et pourquoi il y a tous ces bouts de bois là qui sont empilés les uns sur les autres?
Ça, c'est les crues. Ce sont les crues qui amènent ça. Les crues successives, voilà, ça obstrue le passage. Et des fois, ça peut obstruer un barrage. Mais il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus. Parce que comme on ne coupe plus de bois nulle part sur les berges en amont, le bois meurt et s'accumule. Et lorsqu'il y a des crues, hop, ça arrive ici, ça arrive à plein d'endroits. Et ça se tend qu'avant, on coupait tout le long du fleuve, il y avait une petite exploitation de bois. Et ça a évité ça. Alors, après, moi, j'ai pas la capacité de dire si c'est bien ou pas bien, ou pour la biodiversité, pour tout.
Et on a vraiment une représentation très forte de la rivière sans bois dedans. Donc, ce qu'on on a pensé à l'eau, on a pensé au gravier, super, mais on oublie le bois. Et ça, c'est encore une chose que moi, je m'intéresse à ça maintenant, à la restauration, où on propose de remettre du bois à la rivière. Et donc de lui laisser son bois, en fait, de laisser les arbres tomber dans la rivière. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper récent en France. C'est vraiment une révolution, c'est un changement de paradigme total. Je commence tout juste à m'y intéresser, c'est fascinant. C'est le travail de Baptiste Morisot, Suzanne Oski et toute leur équipe américaine. C'est justement ça, c'est de dire, lorsqu'on restaure à l'appel mécanique et qu'on reméandre, on restaure les formes, mais on ne restaure pas les processus. D'accord ? Les processus, c'est d'impliquer l'eau, les graviers et les formes biotiques, le bois et les animaux. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut laisser le bois tomber dans la rivière Et il faut laisser aussi les castors travailler pour créer des barrages, pour ensuite laisser la rivière prendre des formes multiples. Et ça, c'est quelque chose qu'on, je pense, les écologues savaient, mais que là, ça a été confirmé par le travail d'un homme qui s'appelle Guillaume Piton, un scientifique de l'INRA et Grenoble, qui est absolument passionnant, qui a montré qu'en fait, notre angoisse des embâcles, notre angoisse d'avoir des amas de bois qui viennent créer des inondations avec le bois mort qui est arraché pendant les crues, il n'est pas fondé. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, le bois mort vient stopper. Si on laisse du bois mort dans la rivière, il vient stopper le bois qui est arraché pendant la crue. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que le bois... Parce qu'en fait, peut-être qu'il faut que je mette en arrière, parce que, en fait, aujourd'hui, les syndicats de rivière, lorsqu'ils font de l'entretien de rivière, ils vont couper les bois morts pour empêcher qu'à la crue future, ils soient emportés. Sauf que ce que montre Guillaume Piton, c'est qu'en fait, c'est du bois vivant qui est arraché pendant les crues. Donc, ce qui va faire des problèmes, c'est du bois vivant. C'est pas le bois mort. Donc si on laisse le bois mort en place, il va venir faire des peines, il va venir bloquer les bois verts qui sont arrachés, et donc au contraire empêcher les inondations, empêcher les dégâts, empêcher l'accélération de l'eau aussi. Et donc du coup, ce travail de Guillaume Piton, combiné aux travaux aujourd'hui de l'écologie plus récentes, vont amener, à mon avis, dans les prochaines années, à un vrai changement de paradigme, à une vraie révolution de la conception de qu'est-ce qu'une rivière en bonne santé. Et ça, c'est absolument merveilleux, parce que du coup, ça nous dote... C'est comme s'il manquait un maillon dans notre compréhension des rivières, et qui paraît en plus tellement évident. C'est ça qui est incroyable. C'est de dire, mais oui, évidemment que si on enlève le bois, ça va transformer les rivières.
Des gens qui imitent les castors pour ralentir l'eau. T'as suivi ? Un système d'imitation du castor, en fait, pour ralentir l'eau des petits fleuves, des petites rivières, et pour permettre en fait à l'eau justement de retrouver sa place et d'hydrater le milieu. Et c'est tout un mouvement comme ça qui est super intéressant, parce que du coup ça nous permet un petit peu de voir les rivières différemment. C'est, nous on a une image de la rivière qui est genre un cours d'eau avec une plage de chaque côté, et ça c'est une rivière, quoi. Alors qu'en fait, une rivière, c'est peut-être plus, là ce que je trouvais intéressant, il disait un milieu rivière, tu vois, pas c'est pas seulement juste une ligne bleue là comme ça, mais t'as toute une vie autour, tout est mouillé, enfin la ripisylve elle est énorme, tu vois, c'est pas un truc qui est creusé comme ça dans le sol, ça hydrate complètement les abords et le milieu complet, quoi.
Enfin, j'ai pas de solution, mais ça va être d'être peut-être plus attentif à des manières alternatives qui peuvent exister sur des territoires pour gérer l'eau, en fait. Bah, justement, de mettre plus d'accent sur du collectif, par exemple, ou de mettre l'accent sur les connaissances aussi que les gens peuvent avoir de l'eau ou des savoirs, quoi. C'est-à-dire que... Et puis aussi de réfléchir à l'eau, mais pas seulement à l'eau de manière indépendante, quoi. C'est-à-dire que l'eau, elle est souvent déconnectée des milieux. Enfin, dans le domaine de l'eau, on va parler gestion quantitative et gestion qualitative, par exemple. C'est un truc, je sais pas pourquoi, ceux qui s'occupent des milieux, il va pas s'occuper de la quantité. Enfin, c'est un non-sens. Du coup, il y a ça aussi, c'est-à-dire refaire du lien entre une forme de sectorialisation qui s'est créée, en fait, dans le domaine de la gestion de l'eau, quoi. Les canaux d'irrigation, alors ça dépend des lieux, hein, mais là, sur les canaux que j'avais regardés, bah, il y a toute une sociabilité qui se crée autour de ces canaux, autour de l'eau. Alors c'est une sociabilité qui disparaît, hein, parce qu'il y a eu de l'exode rural, parce qu'il y a un vieillissement de la population, parce que le rôle des canaux aussi dans la société a énormément changé, et que c'est un investissement de temps, d'énergie et aussi d'argent qui se justifie plus forcément, tu vois, dans notre société contemporaine. Mais tout de même, en fait, ça laisse réfléchir sur les liens qu'on peut avoir à l'eau, en fait, dans l'idée où et sur les savoirs aussi qu'on peut avoir sur l'eau. Là, les canaux, c'était assez intéressant parce qu'en fait, c'était assez illustratif d'une vision et d'une interprétation un peu technique et administrative et gestionnaire. C'est-à-dire qu'un canal d'irrigation ancien, ça a des trous de partout, donc en fait il y a plein de pertes, enfin ce qu'on appelle des pertes, et en fait l'eau elle va pas d'un point A à un point B de manière linéaire, et on peut calculer en fait ce qui arrive au point B par rapport à ça, ça embête beaucoup les gestionnaires, parce que du coup il faut contrôler, il faut savoir, donc ça embête. Et l'eau qui va s'infiltrer dans le sol, c'est pas légitime du tout comme usage, enfin je caricature, mais il y a un peu de ça. On va les qualifier plutôt de pertes. Et du coup, bah, les habitants, ils disent, mais non, en fait, c'est pas une eau perdue, c'est une eau qui va aller dans le sol, qui se retrouve plus bas, enfin voilà. Et donc, en fait, ils ont tout un tas de savoirs et de connaissances sur la circulation de l'eau aussi, qui permet aussi bah, de voir autrement, justement, ce que l'administration peut qualifier de perte. Et ce que des habitants disent, bah non, en fait, c'est juste la circulation de l'eau, en fait. Et c'est souvent, en fait, ces deux lectures un petit peu qui se rencontrent pas en fait et qui frictionnent, c'est ça où je dis que ça frictionne parce que bah, y en a un qui va imposer à l'autre un peu sa lecture et sa vision et sa manière de faire dans une incompréhension mutuelle quoi, parce que les uns et les autres se rencontrent pas. Donc moi mon travail c'est de dire ah mais attendez, il y a peut-être d'autres manières de se relationner à l'eau en fait, de la voir et de la connaître et peut-être que ça devient hyper urgent bah, de le renseigner et d'y prendre soin quoi. Les gens ils connaissent l'eau quoi. Enfin, ils savent que ça va s'infiltrer, ils savent si c'est karstique ou pas, ils savent la nature du sol bien mieux que moi, ils savent combien de temps de retour l'eau, enfin, ils savent des choses, enfin, voilà, ils ont une interprétation mais à l'échelle même d'un bassin ou d'une vallée que, enfin, tu vois, que toi tu peux pas avoir en tant qu'hydrologue ou hydrogéologue parce que toi tu as besoin d'outils de mesure que tu n'as pas, enfin, donc c'est pas quelque chose d'inatteignable ou d'inaccessible, moi je crois pas, non, ça faut, je pense qu'il faut casser ce discours-là parce que justement ça donnerait un peu la légitimité à certains de prendre soin de l'eau et pas à d'autres. Et ça, je pense pas, non. Non, non, il y a vraiment un effort à parler entre nous, quoi.
Un certain nombre d'entre nous, c'est spécialement dans cette équipe de recherche qui travaille depuis longtemps à développer des outils de concertation, des outils de co-construction du savoir de différentes manières. Et on a un rôle à jouer là-dedans aussi. Moi, je le vois le plus... Enfin, moi, je considère... de plus en plus qu'on a un rôle de pont à jouer plus que de traditionnellement de producteur du savoir. Pas pour dire qu'il faut effacer le rôle de production du savoir, on a, je pense, une légitimité à produire du savoir, des connaissances, des technologies en tant que scientifiques qui ont fait des études, qui ont appris des choses, qui ont expérimenté des choses. Mais je pense qu'on a aussi une position où on peut essayer de mettre en place des liens entre les différents acteurs de la société sur une problématique donnée. Parce que souvent, les équipes de recherche, elles ont des liens avec les élus, elles ont des liens avec les citoyens aussi, elles ont des liens avec des associations, elles ont des liens avec des gestionnaires, des entreprises privées aussi, beaucoup. Tu vois, il y a un rôle, il y a un enjeu à faire évoluer... une partie de notre rôle dans la société, moi je pense, et que en partie ça peut être de faire rencontrer ces intérêts, de faire dialoguer ces points de vue, ces imaginaires entre eux, dans des formats qui soient pas des formats hyper secs et traditionnels de la recherche du type article universitaire, mais qui expérimentent d'autres formats du type un podcast que tu es en train de faire là. Des collectes et des écoutes de témoignages à droite à gauche. Ici, il y a des collègues qui travaillent beaucoup à mettre en place des jeux sérieux. Donc, c'est des processus de concertation qui permettent de construire des jeux qui sont basés sur des enjeux d'un territoire avec les acteurs du territoire. Et ensuite, on fait jouer différents scénarios. Donc, des fois, ça ressemble à un jeu de plateau, tu vois, où tu fais avancer des pions sous certaines conditions. Et tous les acteurs changent de rôle un peu de qu'ils ont dans la réalité pour se rendre compte du point de vue de l'autre. Et ils jouent les rôles des trucs selon différents scénarios, tu vois, des scénarios climatiques plus ou moins durs, etc. Et ce qui permet ensuite, quand tu reviens dans le monde réel, autour de la table, de te dire, ah putain, est-ce qu'on n'arriverait pas à se mettre d'accord sur des politiques publiques qui font consensus auprès de tout le monde. Donc, on a des outils ici, quand je dis ici, c'est le monde de la recherche, pour jouer ce rôle de concertation. Mais pour ça, c'est un peu compliqué à l'intérieur du monde de la recherche lui-même. Ça, c'est un autre débat de savoir si on veut assumer ce rôle ou pas, quoi.
Moi, je pense qu'il y a... Il y a des choses qu'on nous a pas dites. Cet enfant, c'est pas... Et peut-être même que c'est pas le seul cas. Mais bon, on est off, là, t'enregistres pas. Hein.
Ah non.
Non, parce que ça, il faut surtout pas qu'on entende ça. Mais là, à mon avis, c'est le début d'une découverte qui va... Peut-être que cet enfant est le premier cas de mutation humaine.
Mais elle vient d'où, en fait, vous l'auriez... Enfin, comment elle est venue à vous? C'est ses parents qui l'ont dit, elle est venue à vous, elle est...
Officiellement, c'est une enfant de l'Hérault. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je commence à croire qu'il y a derrière tout cela des étages, je sais pas, mais des laboratoires, c'est certain. Tu vois, si je te disais cette jeune fille est un alien,
ouais.
Tu me dirais, Maxence, t'es complètement fou. On peut pas dire
non,
ça.
Non, je me permettrai pas.
Mais non, oui,
je
mais
penserai,
tu vois ce que je veux dire. On peut pas aller dehors et dire aux gens j'ai un spécimen d'enfant alien. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Et comment en parler avec des collègues qui, peut-être, sont dans les mêmes questionnements que moi? C'est-à-dire, comment dire, regarde ce que j'ai un spécimen très particulier, sans qu'on nous prenne pour un fou, Parce que je sais ce qu'on me dit, et que j'ai manipulé les chiffres, que les images sont fausses. Aujourd'hui, tu fais des images comme tu veux avec l'intelligence artificielle. Personne ne peut y croire, ça. Mais bon, moi, j'ai ma conviction.
Alors, je ne sais pas si c'est cette question des mythes, je ne sais pas si c'est réel ou pas. Et quelque part, ce n'est pas important. Est-ce que c'est important que ce soit effectivement qu'une partie de nous est gardée en mémoire ou pas? Je pense que ce n'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est, à mon avis, c'est... Est-ce que l'histoire que ça raconte, le récit que ça raconte, fait écho à toi? Et est-ce que, du coup, c'est transformateur? Je dis ça parce que, par exemple, mon compagnon a un rapport très particulier avec l'eau, mais vraiment très particulier. C'est-à-dire que, quand il est dans l'eau, il sent qu'il redevient poisson et qu'à chaque fois... Donc, il fait de l'apnée, donc ça dure plusieurs minutes. Et quand il sort de l'eau, à chaque fois qu'il sort de l'eau, il dit qu'il a l'impression... de revivre cette sortie de l'eau par quand on passe du stade aquatique au stade terrestre. Et il dit, c'est évidemment une histoire, il connaît l'histoire de l'humanité, de l'évolution, etc. Mais le fait qu'il le vive en lui donne une force beaucoup plus forte à cette histoire. Et donc, du coup, effectivement, est-ce que c'est une mémoire sur des milliers d'années, qui est resté en nous, en lui, qu'on était des êtres aquatiques, et d'ailleurs on était dans le ventre aussi de la mer, des êtres aquatiques avant d'être des êtres terrestres. Est-ce que ça reste, ou est-ce que c'est une histoire qu'on se raconte? Mais quelque part, pour moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de le vivre, et donc du coup, d'être sensible, d'être réceptif à ça. Et donc du coup, évidemment, d'entretenir un autre rapport avec le vivant.
C'est un sujet passionnant qui n'aura pas de fin.
Il y a plein de découvertes à réaliser.
Mais il y aurait des choses à faire ailleurs, je le sais.
Des mécanismes qu'on ne connaît pas du tout.
Potentiellement, on découvre une nouvelle espèce.
Je sais qu'il en existe d'autres sur la Cérade.
On a publié ça sur un bulletin, la revue Spéléo. On a fait un article d'une dizaine de pages.
L'horloge moléculaire, voir à quelle vitesse les gènes changent.
Ça dépasse mes compétences scientifiques.
Elle fait 100 mètres de haut, à peu près 350 mètres de large.
Plusieurs personnes qui sont issues de ce milieu-là.
C'est assez original dans le monde animal.
C'est comme il y a certains fruits, tu te dirais, mais en fait, ça vient pas de notre planète. Et bah si, c'est et bah si.
Donc ça, c'est possible qu'il y ait
dans le département de l'Hérault
et sur l'adaptation fascinante du cortex qui valide
la recherche de l'inconfort avant tout.
Donc il y a des gens qui les entendent.
C'est la suite logique, justement, de l'évolution des choses.
Extraordinaire.
Incroyable, oui, incroyable.
Capacité d'adaptation phénoménale pour pouvoir vivre et dans l'eau et dans l'air et sans trop se nourrir parce qu'il y a des moments où il n'y a pas trop à manger.
Oui, je pense qu'on a tout intérêt à être plus à l'écoute, en fait, de ces êtres vivants.
C'est le genre de truc qui contribue à te réémerveiller et à te dire, putain, il y a un truc incroyable à côté de chez moi, ça serait peut-être pas mal que j'en prenne un peu soin.
Je suis née du sang de ma mère, dans les veines de la terre, d'une immensité tapis dans les abysses des océans et les cavités insoupçonnées de la roche. Je suis née de celle qui pleuvait par multitude sur cette belle orbe de feu et de roche à la nuit des temps. Celle qui confluait en son sein et refluait à sa surface. Celle qui a porté la vie avant qu'elle ne soit vie. Celle qui a enveloppé chacune des vies naissantes de chacun de vos ancêtres. Moi aussi, je suis née sans forme, mais je suis née d'une volonté propre. La volonté de comprendre ce qui grondait à la surface de sa peau et troublait sa chair. J'ai voyagé du cœur jusqu'à l'épiderme, des nappes plus profondes que les abysses et par toutes les strates marines du vivant jusqu'à jaillir à la surface, miroitant l'astre qui baigne vos jours. Et puis, je me suis écoulée en remontant les estuaires, les fleuves et les gorges, filant entre vos doigts, fuyant votre capture. Jusqu'à ce que l'une des vôtres m'accueille en son sein, me permette d'habiter en elle et me donne forme. Dans ce corps d'enfant, je suis née une seconde fois, et pour toutes les étrangetés, mon hôte fut ausculté. Quand j'ai appris assez pour connaître et ressenti suffisamment pour compatir avec ce cœur pur d'enfant, je me suis écoulée hors de mon hôtesse. Je me suis infiltrée dans les capillaires souterrains et ai trouvé asile et repos dans une étendue profonde d'oublier. Là, baignant dans la mémoire formée de par cet enfant et en symbiose avec les créatures de la rivière, j'ai pris forme une troisième fois. Masse informe, lacustre, puis bipède à nouveau. C'est ainsi que vous me voyez, sans m'entendre. Et avant que ce corps amphibie ne se dissolve de nouveau, je plaide au nom. Je plaide au nom de ma mère, votre mère à toutes et à tous. La forge sans trempe n'est qu'une fonderie. Un monde sans eau n'est plus qu'une terre de feu, de souffle et de lave sans vie. À tout cœur qui frémit, à mon monde, je prie. En tout un chacun, existe un seul et même océan infini qui nous relie à elle. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une intelligence ou un sentiment, mais c'est tout à la fois. Car dans le sang de vos veines, la lymphe de vos corps et le médium de vos cerveaux s'écoule la mémoire de la compassion et de la sagesse de tous vos ancêtres.
Et si les allusions de vos existences alourdissent par trop vos cœurs, si le poids de vos édifices devient impossible à soutenir,
fermez les yeux, devenez comme l'eau, écoutez la rivière en vous, elle murmurera l'intuition de tous les vôtres, elle baignera vos cœurs dans la compassion. Partagé par tout ce qui vit et tout ce qui est avec eux.
La rivière en soi. Un podcast réalisé par Florent Dupuis, en collaboration avec Rémi Pozzo et Marianne Nicolet. Ce podcast s'inscrit au sein de la programmation itinérante La Route de l'eau, proposée par Bouillon Cube dans le cadre de l'événement 25 Les Chemins du Vivant, initié par M28, Terre de Culture, du 26 septembre au 5 octobre 2025. Cette programmation est également soutenue par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Il a été conçu à partir d'un collectage de témoignages, habitants, habitantes, scientifiques, pêcheurs, spéléologues, hydrogéologues, anthropologues, membres des EPTB du Lez et de l'Hérault, Natura 2000, comédiens, comédiennes. Tous et toutes livrent leurs récits et points de vue autour de la présence et de la mémoire de l'eau en Pic Saint-Loup. La rivière de l'Hérault, la Buège, le Lamalou et le Lez.